Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, The Crown.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Si on n'y prenait pas garde, on pourrait croire que la série de ce Previously, c'est Doctor Who. En effet, nous allons parler d'un personnage qui est une institution en Grande-Bretagne, un personnage toujours vivant, mais dont on a commencé à nous retracer la vie à partir de l'année 1947. Donc, enfoncé, hein, les 50 ans de Doctor Who, moi je dis ça, je dis rien. Un personnage mythique et qui change d'interprète. Et oui, un pari qui entraîne une grande incertitude et une grande angoisse chez la personne chargée de reprendre l'interprétation de ce personnage. « C'est horrible! C'est le pire métier du monde !» dit la personne. « Tout le monde adorait la précédente incarnation. C'est une horreur. La première semaine où je jouais, j'essayais d'imiter l'interprète précédente. » Oui, on pourrait vraiment croire que je vais vous parler de Dr. Who et de ses multiples régénérations, si on oublie quelques secondes que Dr. Who a déjà fait l'objet d'un précédent podcast. Mais bon, admettez que les similarités sont troublantes, à une différence près, une différence majeure. The Crown retrace la vraie vie d'un personnage, une personne toujours en vie de nos jours, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, son mari, le prince Philippe, leur famille, la royauté, le gouvernement et l'histoire de la Grande-Bretagne. Lancé par Netflix en novembre 2016, Crown ambitionne, avec un luxe insolent de moyens et une rigueur absolument parfaite, de retracer la vie de la reine et, dans le même temps, de nous passionner, nous qui ne sommes pas particulièrement intéressés par ça, ni même britanniques d'ailleurs, avec un destin hors du commun d'une femme qui n'a pas le pouvoir, mais qui représente le pouvoir, avec sa lutte pour sauvegarder les traditions, pour assurer son mariage, pour ne pas brimer sa sœur, la princesse Margaret, et continuer de vivre avec son époque. Loin d'être une reconstitution pédante, The Crown est un soap, avec ses moments de tension, ses rebondissements, pour peu qu'on n'aille pas se spoiler en ouvrant un livre d'histoire. Avec moi pour parler de la série, Ioannis De Roide, qui a déjà écrit un formidable ouvrage sur les séries télé historiques anglo-saxonnes, Dominer le monde aux éditions Vendémiaire, et qui prépare d'ailleurs un livre plus spécifiquement axé sur The Crown. Bienvenue Ioannis.
Merci beaucoup, merci Alain.
Donc ce livre c'est quoi ?
Alors ce livre c'est l'histoire britannique, l'histoire du XXe siècle britannique à travers les séries et à travers surtout trois séries qui ont été quand même bien diffusées chez nous en France, The Crown effectivement, Downton Abbey.
Ouais.
Qui s'est fini il y a pas longtemps avec le
Absolument.
Film de cinéma. Et puis Peaky Blinders, qui marche fort chez nous.
Ouais, dont on avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu.
Exactement, et qui continue et qui est vraiment une série ces trois séries qui nous disent beaucoup de l'histoire de ce pays-là. Voilà.
Et le livre sort, là, il sort en ce moment, quoi, en fait.
Il sort le 27 février, dans toutes les bonnes librairies.
Il faut quand même remarquer que ce qui est bien plus courant, c'est quand même de retracer les royaumes passés. Henri VIII, sous les traits de Jonathan Rhys-Meyer dans les Tudors, qui poussait les potentiomètres de l'aspect érotique de la série. Elisabeth, Margaret et Anne, qui convoitent le trône et veulent devenir la White Queen, dans cette autre série. Marie Stuart, dans une vie orientée teen drama, c'était pour la série Règne. Anne Boleyn et Thomas Cromwell, c'est dans Wolf Hall. Anne Boleyn encore, incarnée par Claire Foy, justement, la Claire Foy qui, un an plus tard, deviendra la jeune reine Elisabeth II de The Crown. Donc, tout ça, il y a quand même un peu un mythe, une habitude, on va dire, en Grande-Bretagne, de faire des séries sur les royautés, mais les royautés passées. En France, on a longtemps retracé la vie des rois et des reines, de nos rois, de nos reines, à travers de nombreux téléfilms et des mini-séries comme Les Rois Maudits ou comme L'Aile du Roi, ainsi qu'avec le récent Versailles. Mais toutes ces séries historiques sont notoirement bien plus coûteuses que n'importe quelle production contemporaine en termes de décors, d'accessoires, de costumes, de véhicules. Le moindre plan nécessite un soin particulier pour qu'on ne distingue pas le moindre élément anachronique. Genre, évidemment, on ne va pas voir une tasse de café en plein milieu, enfin, voilà, si vous voyez de quoi je parle. Donc, rien d'étonnant à ce que l'ambition de The Crown implique un budget complètement hors norme. À l'époque, la série était réputée comme étant la plus chère de Netflix, avec quelques 10 millions de dollars pour chaque épisode. Mais il faut quand même reconnaître que ça se voit. Que ça se voit à l'image, parce que c'est franchement somptueux, c'est opulent. Et ça paraît authentique. Et pour rentabiliser la production et simplifier les contrats avec les acteurs et les actrices, le tournage s'enchaîne sur 2 saisons à la fois. Est-ce que c'est ça qui, pour toi, fait la spécificité de The Crown, ce luxe de moyens dont on vient de parler?
Oui, c'est sûr. C'est la série, enfin, l'argent se voit à l'écran, hein, comme on dit parfois. Et c'est vrai que bon, depuis les années 2000, il y a beaucoup de séries historiques qui se sont distinguées en montant vraiment en gamme avec des budgets considérables. Hein. Ça avait commencé avec Band of Brothers, avec Rome. Les années 2000, HBO avait vraiment ouvert la voie. Et Netflix la suit. Donc c'est vrai que The Crown obtient ce résultat-là grâce aux moyens considérables qui sont dépenser, effectivement, costumes, décors, c'est somptueux. Après, il y a aussi il y a d'autres qualités qui fonctionnent. Il y a le fait que ce soit la monarchie britannique, hein, qui est quand même un produit d'appel assez extraordinaire.
Tu penses qu'avec la monarchie belge, par exemple, ça aurait moins d'impact? Non, mais je dis ça pour la limite sans ironie, quoi.
Alors, sans doute. Là où c'est original dans le cadre de Crown, c'est que, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de séries sur les règnes passés, sur les périodes passées, et là, on est dans de l'histoire très récente, vraiment en continuité avec le présent, puisqu'on suit une reine qui est toujours là, c'est toujours la même.
Exactement. Donc ça doit être un peu délicat pour les auteurs. Enfin, délicat n'est pas le terme, en tout cas. Je me mettrais, moi, à la place de Peter Morgan. Ça doit pas être quand même... Enfin, il doit être observé par tout le monde, oui. Y compris donc par la reine actuelle, quoi.
Ouais, bon, ça pose déjà des problèmes, c'est que The Crown n'a pas eu particulièrement d'accès, d'autorisation pour filmer à Buckingham Palace, pour pas du tout. Hein. Donc, ils ont dû effectivement se servir des informations dont ils disposaient et de reconstituer, de recréer dans d'autres lieux avec d'autres objets. Enfin, bon, voilà. C'est vrai que ça pose problème. Ils sont effectivement, chaque épisode est disséqué parce qu'il y a quand même beaucoup de spécialistes de la monarchie britannique actuelle qui connaissent dans les moindres détails, toutes les minutes par minute, le règne d'Elisabeth II. Donc on peut pas du tout se permettre les mêmes libertés qu'avec des périodes plus anciennes. Ou en tout cas, si on se le permet, il faut le dire clairement parce que ça va être détecté immédiatement.
Voilà. Ouais, bien sûr.
Bon, mais ils l'ont fait quand même, hein, et effectivement, il y a des choses qui sont inventées, il y a des choses qui sont recréées, il y a des choses comme souvent dans les fictions qui sont condensées, et ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne plutôt bien. J'ai l'impression quand même que les critiques vis-à-vis de la crédibilité sont quand même relativement rares ou sur des points extrêmement ténus.
Oui, il y a eu beaucoup
voilà, cette scène-là, c'est pas un tel qui regardait, mais c'est plutôt
c'est
tel
ça.
Autre.
Enfin, c'est ça.
Du détail.
Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup plus d'éloges, justement, sur la qualité quand même de la reconstitution que de critiques, c'est vrai.
Alors, à la tête de The Crown, on trouve Peter Morgan, je l'ai cité tout à l'heure, et on trouve son origine dans une pièce de théâtre qui s'appelle The Audience, une pièce qu'il a écrite et fait jouer en 2013. Et c'était Dame Helen Mirren qui incarnait la reine Elisabeth II. Et elle avait déjà tenu ce rôle dans le film The Queen par le même auteur, donc une espèce de continuité. Là, la pièce, donc The Audience, retraçait justement les audiences royales données au Premier ministre depuis son accession au trône jusqu'à nos jours. Ça incluait donc Margaret Thatcher et David Cameron. Et avant cela, Peter Morgan avait déjà écrit un téléfilm qui retraçait la carrière de Tony Blair, Le Deal, un téléfilm réalisé par Stephen Frears en 2003. Morgan avait eu l'idée d'un film dérivé avec les audiences entre Elizabeth et Winston Churchill, et finalement, le projet qu'il avait, c'est devenu une série. Avec The Crown, donc, il est dans un exercice purement historique, un peu comme il l'avait fait depuis le début avec Tony Blair. Et le producteur exécutif de la série, c'est Stephen Daldry. C'est déjà lui qui avait produit la série britannique The Hour. C'était aussi une série historique, puisque c'était à propos d'un programme d'investigation qui fit date sur la BBC. C'était la télévision qui se regardait, mais c'était aussi sur une base historique. Alors, le titre The Crown, on peut penser, nous en France, que c'est simplement la couronne, c'est l'objet couronne. En fait, ça fait référence au symbole que cela représente pour le pays tout entier.
Oui, en fait, c'est l'institution. Hein. C'est un peu comme si la série s'était appelée l'État ou le régime. Ou le... Bon, évidemment, ça ne marche pas, mais voilà, c'est ça. Et dans le générique, on voit l'objet, on voit la couronne, effectivement. Le générique de The Crown, c'est cette fameuse couronne. Mais en fait, tout le reste des épisodes, après, nous montre finalement, en effet, tout ce qu'elle symbolise. Hein. Donc, alors, c'est à la fois la couronne, parce qu'on s'intéresse à la personne qui la porte. Donc, ouais. Sur la tête de qui elle se trouve et qui est cette personne et qui est cet individu. Et puis, c'est aussi effectivement la couronne, le Royaume-Uni, la monarchie, son histoire, ses symboles, ses valeurs, c'est tout ça qui est exploré par la série.
Et ce qui est assez fascinant, c'est que ce qu'on voit à travers la série, c'est que cette couronne, cette monarchie, dépasse complètement le cadre humain des personnages. C'est que les personnages de la série, Elisabeth, etc., se retrouvent souvent face à des choix. Elle, en tant que femme et en tant qu'humaine, mais il y a la couronne à protéger à tout prix.
C'est ça, c'est ce qu'elle n'arrête pas de répéter à tout le monde en fait d'ailleurs, puisque finalement elle passe une bonne partie des épisodes à rappeler à tout son entourage, son mari, sa sœur, son fils, etc., que ce qu'ils doivent tous avoir à l'esprit en premier, c'est justement ce respect à la couronne, donc ce qu'on attend d'eux, membres de la famille royale, ce qu'ils peuvent faire ou pas, et ce qui doit être sacrifié, puisque ça en revient souvent à cette question-là, finalement, hein, sacrifier ses intérêts, son bonheur, ses goûts, son plaisir, etc., au fait que la couronne doit prévaloir sur l'ensemble, et que c'est elle qui doit être finalement protégée, incarnée par ses membres de la famille royale.
J'aurais tendance à dire que ça, c'est vraiment le terreau idéal pour n'importe quelle série, parce que c'est le conflit idéal. Oui. Le travail, l'abnégation à la vérité au travail, face à ses propres sentiments. C'est le conflit parfait qui peut durer des saisons et des saisons entières.
Oui, un individu, une institution. Finalement, il y a plein de séries policières qui fonctionnent là-dessus aussi.
Exactement, hein. Ça. Donc c'est vraiment parfait. The Crown reprend évidemment une chronologie historique, mais chaque épisode explore un thème différent à propos du règne d'une monarque. Pour un épisode, par exemple, c'est la trahison, la confiance mise à mal entre la reine et les membres de sa garde rapprochée. Dans un autre, il s'agit de l'éducation de la reine, qui n'a pas été suffisante pour lui permettre d'aborder des hommes d'État étrangers. Dans un autre encore, c'est le statut de reine face au statut de femme dont on vient de parler. Dans un autre épisode, c'est la reine, et dans un autre, c'est le roi. Chacun est un peu en regard l'un de l'autre. Est-ce que tu y vois un élément clé pour expliquer la réussite de la série ? Le fait que ce n'est pas simplement un déroulé historique, mais c'est aussi à chaque fois des thématiques, épisode par épisode, qui sont explorées.
Ouais, c'est vraiment, ça se voit que c'est une série qui est vraiment pensée à l'échelle de l'épisode. Alors, comme ils ont des moyens considérables, ils peuvent se permettre de faire de chaque épisode un vrai petit film. Et alors, c'est pas du tout péjoratif de le dire, mais c'est vrai que The Crown, ça fait partie des séries où Netflix, clairement, quand même, vise un peu une qualité cinéma. Voilà, j'aime pas ce mot parce que la qualité des séries n'est pas inférieure à celle du cinéma, mais on essaie de faire quelque chose qui soit aussi intense, aussi cohérent, aussi bouclé. Parfois il y a vraiment un début, un milieu, une fin, quelque
absolument,
chose voilà.
Absolument.
Mais avec des moyens beaucoup plus grands que ceux qu'on mettait avant pour faire, voilà, on a toujours fait d'excellents épisodes, c'est pas la question dans de très nombreuses séries, mais maintenant on arrive à le faire avec des moyens qui sont ceux du cinéma. Voilà.
Et c'est vraiment presque un peu à l'opposé de ce que dit souvent Netflix, comme quoi une saison entière, c'est un long film avec un début, milieu.
Ah oui, non, là pas du tout, oui.
Là pas du tout. Carrément, chaque épisode peut se voir en tant que tel.
Ouais, on peut apprécier énormément d'ailleurs un épisode finalement et à la limite en sauter deux et en voir un autre et on s'y retrouve sans problème. Les personnages sont connus, bon, la plupart sont réels donc on s'y retrouve sans souci. Et puis il y a vraiment à chaque fois un thème qui est clairement affiché et on va explorer une facette, un aspect. Et alors il y a des fils narratifs qui courent sur chaque saison mais qui ne sont pas si importants que ça. Et pour le reste, c'est vraiment à l'échelle de l'épisode. Il y a des vrais morceaux de bravoure hein, du coup.
Il y a des thèmes et des morceaux de bravoure, toi qui t'ont vraiment surpris ou enthousiasmé plus que d'autres.
Oui, bah alors j'ai beaucoup aimé l'épisode sur le grand smog des années 50 à Londres, donc où on voit Churchill. Alors c'est un épisode où il y a une grande part de fiction en réalité, où notamment le rôle de Churchill, les propos même qu'il a tenus sont réécrits. Donc on voit que la série, quand elle veut, n'hésite pas vraiment à s'affranchir considérablement de la réalité historique, mais qui dramatiquement marche très bien. Voilà, avec ce face à face entre la jeune reine et le vieux ministre. Et puis il y a un autre face à face que je trouve très intéressant dans la saison 3, c'est celle avec son fils, avec Charles, qui essaie de s'émanciper, qui a un peu de mal à comprendre ces fameuses règles justement de respect de l'institution et avec l'effacement que ça suppose et qui est dur à accepter pour un jeune homme qui voudrait exister par lui-même et à qui sa mère, la reine, dit mais en fait non. Et tout simplement. Et
simple
cet épisode où il doit apprendre le gallois parce qu'il doit prononcer un discours dans des conditions très particulières, très attendues, il est vraiment remarquable.
Alors la première saison de The Crown commence alors qu'Elisabeth vient de se marier avec Philippe, le duc d'Édimbourg. C'est Winston Churchill qui est le premier ministre et il est incarné avec brio par John Lithgow, un acteur absolument fantastique, acteur de sitcom comme Third Rock from the Sun et de films comme Le Blowout de Brian De Palma et même de séries aussi bien sûr comme Dexter. Il a remporté un Emmy Award pour cette brillante interprétation et Claire Foy a remporté non seulement un Emmy Award mais aussi un Golden Globe dès la première saison de The Crown pour son interprétation. À ses côtés, aux côtés de Claire Foy, il y a un ancien docteur. Docteur Who, Matt Smith. Bon, voilà. Hein. Dans une interview, l'acteur fait d'ailleurs le lien entre les deux personnages. Il dit « Tout comme le docteur, Philippe est un extraterrestre pour ce monde-là. Il y est complètement étranger. C'est la mauvaise personne qui dit exactement ce qu'il ne faut pas dire au mauvais moment. » Bon, c'est évidemment l'acteur qui fait le lien entre ces deux rôles, mais j'ai trouvé ça très pertinent, finalement, comme analyse du personnage de Philippe. C'est vraiment ça, non ?
Oui, c'est vraiment ça. Bon. Alors, c'est vrai que la série a été un petit peu critiquée des fois. La série aime beaucoup ce personnage de Philippe. C'est vrai que c'est un personnage qui est important, évidemment, dans la vie de la reine. Ça va de soi et qui est là, lui aussi, depuis le début, hein, voilà, de ce très long règne. On a parfois l'impression que la série est un peu complaisante avec lui parce qu'il se comporte comme un grand gamin, surtout au début, oui. Surtout soucieux de s'amuser et puis qui se plaint beaucoup de ce qu'il perd comme liberté comme pouvoir aussi. En même temps, c'est une thématique intéressante, c'est vrai, c'est cet homme qui finalement se retrouve être le seul peut-être à l'époque en Grande-Bretagne à devoir clairement passer après sa femme, à devoir lui obéir, suivre ce qu'elle lui dit, enfin sans ne plus être tellement maître de son destin. Alors il y a un côté prison dorée parce qu'évidemment il a accès à tout le confort qu'on peut imaginer. Et il paraît d'ailleurs lui-même parfois bien déconnecté des réalités. Mais je trouve que la série le rend effectivement attachant, et notamment dans son rapport aussi à ses enfants, à sa famille, à son nom. C'est un aristocrate, donc pour lui ça compte beaucoup. Il perd son nom parce que ses enfants devront porter le nom de la dynastie royale, donc pas le sien. Et la dynamique entre les deux, alors les deux acteurs étant excellents, enfin ouais. Claire Foy et Matt Smith, vraiment ça marche très très bien. Mais dans la saison 3, ça fonctionne aussi avec les acteurs qui les ont remplacés. Le personnage, et je pense que vraiment qu'ils en ont tiré le meilleur. Et c'était pas gagné, je pense. C'est pas si facile.
C'est vrai que le personnage est assez fantastique. Alors, lui, tout comme Claire Foy, montre des souverains jeunes, attirants, ils fascinent le peuple britannique. Ils sont très loin de l'image actuelle du couple qui a plus de 90 ans. Cela leur donne une vulnérabilité, une complexité particulièrement unique. Au centre de cette saison, il y a le conflit entre Elisabeth et sa sœur, qui se termine par une rupture. Elle est carrément irréconciliable. Elisabeth doit choisir entre son sentiment d'être humaine, d'avoir véritablement une relation humaine avec sa sœur et sa fonction pour protéger la couronne. C'est la thématique que l'on a évoquée. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour toi de cette saison 1 en priorité ? Ça a été le début, tout le monde a été pris de court avec cette série. On avait vu énormément de séries historiques. D'un seul coup, Netflix nous balance The Crown, une série britannique. Il nous fait énormément de marketing sur le fait que c'est une série très très chère et tout. Mais au fond, avec le recul, qu'est-ce qu'il faut en retenir ?
À mon avis, cette saison 1, elle était très attendue, hein, parce qu'on avait eu des infos en amont sur le budget, donc elle était très attendue. Le sujet était quand même un peu touchy, voilà. Mais donc vraiment une qualité extraordinaire, c'est vrai, un soin extraordinaire, mis vraiment à tous les niveaux, dans tous les domaines, et on est bluffé parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de séries historiques qui avaient des gros budgets parce qu'il y avait des scènes de bataille, parce qu'il y avait des tournages en extérieur, parce qu'il y avait des choses spectaculaires, un peu film d'action. Enfin voilà, et là on est dans quelque chose de beaucoup plus sobre, mais où on a effectivement un perfectionnisme qui quand même force l'admiration. Et puis l'autre chose, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'interprétation. Alors on parlait des rôles principaux, mais tous les rôles sont remarquablement interprétés, même les deuxièmes, les troisièmes. Alors tout l'entourage de la reine, effectivement, sa sœur, ses parents qu'on voit un peu au début, hein, de la saison 1, le roi George VI malade. Enfin bon, il n'a que quelques épisodes, mais bon, vraiment vraiment il est remarquable. Et puis ensuite donc tout puisque il y a le casting change beaucoup d'un épisode à l'autre, vu que c'est The Crown, c'est aussi beaucoup des rencontres comme ça, et à chaque fois on est bluffé. Et là on retrouve vraiment, je trouve, la grande classe britannique des comédiens et comédiennes qui le monde entier se les arrache, c'est pas un hasard. Ces gens-là, ils sont vraiment excellents.
Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que Peter Morgan a vraiment préparé son coup depuis longtemps. Parce que franchement, dès le début, dès le premier épisode, il est pile poil en ce qui concerne le personnage d'Elizabeth. Je veux dire, il n'y a pas de recherche dans le personnage, il n'y a rien. Il ne tâtonne pas. On est en plein dedans. Le personnage est absolument formidable dès le début. Et c'est le centre de la série.
Oui, c'est-à-dire thématiquement, en fait, Peter Morgan savait déjà vraiment ce que la série voulait nous dire. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on aime les séries, ça a un peu changé maintenant, mais pendant longtemps, on savait qu'il fallait être patient avec une série. Il fallait trouver des indices, se dire ça a l'air bien, ça a l'air prometteur, il y a des choses qui sont pas encore en place, mais j'ai confiance. Et souvent ça s'améliorait effectivement. Bon, c'est compliqué maintenant parce qu'on sait très bien que les séries sont produites d'une autre manière, il y a souvent des formats beaucoup plus courts, un petit nombre d'épisodes. Mais c'est vrai que The Crown, je trouve, elle arrive déjà pleinement formée. Enfin, elle a été, alors sûrement parce qu'il l'a pensée finalement à travers d'autres œuvres avant que tu as rappelé au début. Et donc il connaît, il maîtrise énormément son sujet. Et donc tout ce propos effectivement sur mais qui est cette femme qui porte la couronne et qu'est-ce que c'est que d'être reine aussi longtemps dans un pays qui change, qui évolue, etc. Tout ça, c'est déjà en place. Et du coup, c'est très agréable parce qu'on entre dedans avec énormément de facilité. On n'est pas arrêté par des défauts, des maladresses, où on se dit qui ferait sortir. Je trouve qu'on est vraiment complètement pris. Voilà. Et comme par ailleurs, c'est magnifique à regarder. Ouais. Bon, vraiment, on se laisse faire. Quoi.
Quitte à se demander s'il n'y a pas eu énormément de répétitions avant de tourner les premiers épisodes, parce que franchement, c'est pile poil, chaque plan, chaque
exactement,
scène, chaque moment fluide, d'interprétation. Ouais. C'est quand même très très bien foutu. La deuxième saison de la série se déroule au moment où éclate la crise du canal de Suez et la naissance du prince Édouard. Elizabeth va être beaucoup plus à l'écoute d'elle-même, de ses sentiments, de sa vie personnelle. Enfin, en tout cas, elle va tenter. Vanessa Kirby tient toujours le rôle de la princesse Margaret qui tente de se reconstruire après sa rupture avec le capitaine Peter Townsend. La rencontre au sommet, c'est entre elle et Philippe et le président Kennedy et Jackie. C'est Michael C. Hall de Dexter qui incarne le charismatique président et Jodie Balfour est la stupéfiante première dame. Cette rencontre va ouvrir les yeux à la reine, elle qui représente le passé, alors que les Kennedy sont censés symboliser l'avenir, en tout cas les turbulentes années 60. Toi aussi, c'est pour cette saison 2 un moment fort, la rencontre de ces deux mondes.
Oui, c'est un épisode intéressant. Bon, alors là, la reine rencontre quelqu'un d'aussi connu, de plus connu peut-être qu'elle pour d'autres raisons. Mais on a vraiment une icône, voilà, ou deux icônes, si on veut, du XXe siècle, hein, qui se font face à face. Et c'est sûr que c'est un épisode qui a été soigné par les scénaristes. Une anglaise, enfin une britannique, la reine, un américain en face, ça aussi, ça c'est quelque chose. Effectivement, le vieux monde d'un côté, l'Europe, les traditions, la monarchie, et puis ce jeune président qui était perçu comme si moderne à l'époque. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde cet épisode-là un peu dans le flux de la série, et qu'on connaît un tout petit peu son histoire, on sait que Kennedy, malheureusement pour lui, ne fait que passer. Voilà, c'est un président qui, parce qu'il a été assassiné, est resté peu de temps au pouvoir et qui est resté vraiment associé aux années 60, vraiment à tout jamais, à ce petit morceau d'histoire, alors que la reine elle, vraiment a traversé les époques.
Exactement. Finalement, l'avenir s'est interrompu alors que le passé a continué de progresser. C'est quand même un message formidable. Enfin, c'est formidable. En tout cas, c'est l'histoire, quoi.
Voilà,
c'est l'histoire
et puis qui déroule devant nous. Ça la prend de manière du coup un petit peu renversée par rapport à. Voilà, on aurait pu s'en tenir simplement à une opposition, les vieilles traditions britanniques et puis le dynamisme de la jeunesse américaine. Mais finalement, quand on sait comment l'histoire s'est poursuivie, on a un peu autre chose. Et tout ce que The Crown essaie de montrer, c'est toujours comment la reine, finalement, elle a traversé justement tous ses premiers ministres, toutes ses époques, toutes ses phases de l'histoire de son pays et de l'histoire du monde, on peut dire. Et elle est toujours là. Je crois que c'est un peu ça aussi qui a intéressé Peter Morgan au départ. C'est quelqu'un qui a vécu si longtemps, qui a régné si longtemps. Elle résume forcément plus d'un demi-siècle à elle seule d'histoire politique, sociale, économique. Enfin, bon, en tout cas, même si elle n'a pas été toujours une actrice de premier plan, elle a toujours été là. Dans le paysage. Et c'est intéressant et c'est amusant de voir aussi tous ces personnages historiques comme ça qui la croisent, mais qui eux après disparaissent plus ou moins, ouais. Alors qu'elle, elle continue. Elle est toujours là.
C'est vrai, c'est absolument étonnant. Quels sont les autres moments, s'il y a d'autres moments qui t'ont marqué lors de cette saison 2, hormis en effet la rencontre avec Kennedy ?
Alors, c'est vrai qu'il y a c'est une saison où on sent vraiment qu'il y a une volonté de construire une dynamique autour de la reine. C'est-à-dire que ce personnage de la reine, il a des limites qui sont ses limites réelles. Il est quand même très réservé. Alors on voit ses tourments, ses états d'âme, mais enfin c'est toujours quand même extrêmement retenu. Claire Foy fait ça très bien. Bon, et donc du coup, clairement dans la saison 2, ce que la série essaie de montrer, c'est un petit peu des personnages un petit peu plus expansifs, expressifs, qui vont s'exprimer, sa sœur notamment. En fait, je crois que vraiment, la reine et sa sœur, elles ont été pensées comme deux facettes. C'est quasiment la même personne, en fait. Elles ont deux tempéraments différents, mais on sait, et c'est dit à un moment, que Margaret, elle aurait aussi aimé devenir reine, qu'elle aurait pu faire une très bonne reine, différente, mais sans doute excellente.
La préférée de notre père.
C'est ça, il y a exactement ça. Et donc, elle peut pas, et donc, elle va, faire toutes sortes d'excès, mesurés, mais disons, elle a des frasques, des incartades, etc. Et elle incarne un peu tout ce qu'Elisabeth ne peut pas se permettre de faire. Et donc, d'où, évidemment, des tensions régulièrement entre elles. Et puis, il y a effectivement Philippe aussi, qui est là pour montrer comment un homme, dans tout ce contexte, peut se comporter, il y a des choses qui peut se permettre, il y a des choses qui peut pas se permettre, et il y a toute une dynamique comme ça qui s'organise. C'est vrai que The Crown, c'est quand même une série de famille aussi,
ouais,
et la famille, on la voit, alors elle s'élargit petit à petit, elle se recompose, les parents disparaissent dans le père disparaît dans la première saison, il y a les enfants vont prendre plus d'importance dans la troisième, mais dans la deuxième, on voit bien cette dynamique finalement des Windsor, avec l'oncle aussi, le duc de Windsor, l'ex-roi Henri VIII, là, celui qui est abdiqué, c'est un traumatisme dont la famille s'est jamais vraiment remis. Et on voit toutes ces attitudes finalement face au pouvoir, face justement à ce que c'est que la monarchie. Et puis au centre, il y a ce pivot, qui est la reine, qui est censée tenir tout le monde, qui rappelle chacun à l'ordre, et puis qui en même temps, elle-même, passe le plus clair de son temps à se contenir, à se retenir. Enfin, c'est très britannique aussi, cette vertu-là. C'est un exemple toujours de réserve. On lui a reproché parfois, ce sera dans une saison suivante, mais au moment de la mort de Lady Di, de Diana, oui. On a reproché à la reine de ne pas avoir suffisamment tôt exprimé ses émotions.
Oui, mais là, on comprend mieux, puisque de toute façon, depuis le début, elle est obligée de réfréner toutes ses émotions avec tout le monde, avec sa sœur, avec son mari, avec absolument tout le monde. Au cours de la promo de cette saison, on découvrira que Matt Smith avait un salaire plus important que Claire Foy, même si elle était le premier rôle. On sait depuis longtemps que c'est la notoriété qui détermine le montant des cachets des comédiens et pas la grandeur du rôle. Souvenons-nous de Marlon Brando qui a été payé une somme faramineuse pour quelques minutes dans le premier film Superman. Mais en ces temps d'égalité salariale, l'information devient un énorme scandale dans le monde entier. La troisième saison de la série voit un changement dans la distribution pour mieux refléter l'âge des personnages. Elle retrace la période entre 1964 et 1977, avec Harold Wilson comme Premier ministre, et le prince Philippe est dorénavant incarné par Tobias Menzies, célèbre depuis son rôle du diabolique Jack Randall, qui viole le héros Jamie dans la série Outlander, une autre série historiquement, qui est franchement inventée celle-là, comme on va le dire. On l'avait vu aussi dans Rome, dont on a parlé au début de ce podcast, il jouait le rôle de Brutus, et dans Game of Thrones, qui n'est pas une série historique, en tout cas, pas que le sache, où il était Edmure Tully. La princesse Margaret est maintenant incarnée par Bellatrix Lestrange, vous savez, le personnage des films Harry Potter. C'est l'actrice Helena Bonham Carter, vue aussi dans Dark Shadows et dans Les Misérables. Et c'est Olivia Colman, qui explosa littéralement dans Broadchurch, qui est maintenant la reine. Entre-temps, elle a quand même remporté un Oscar pour son rôle d'une autre reine, Anne, au XVIIIe siècle. Au centre de cette saison, il y a des scandales d'État, comme la découverte que le conseiller artistique de la reine, Anthony Blunt, est un espion soviétique. C'est aussi l'union explosive entre la princesse Margaret et son mari, le photographe Lord Snowdon, qui est au cœur des histoires. De même, on assistera à la naissance de la relation amoureuse entre Charles et Camilla, des années avant qu'il ne soit forcé d'épouser Diana. Le changement de point d'intérêt pour cette saison, d'Elisabeth II à sa sœur Margaret, s'était rendu nécessaire pour apporter une relation un peu tumultueuse. C'est, grosso modo,
pendant cette saison-là, il se passe pas grand-chose avec la reine, donc on va voir la sœur. C'est ça l'idée ?
Oui, il y a un peu de ça. Bon, l'histoire de Margaret n'est pas inintéressante en soi, donc il n'y a pas de raison, effectivement, de rester trop focalisé seulement sur le personnage d'Elisabeth. Et puis, ça introduit clairement une dimension soap qui est appréciée, il faut bien le dire, dans les séries historiques. Il y a beaucoup de séries historiques qui fonctionnent comme ça. Il y a des rivalités de famille, donc là, entre les deux sœurs. Il y a des relations difficiles entre parents et enfants. Il peut y avoir des inimitiés. Et c'est quelque chose qui passe toujours très bien avec les beaux costumes.
C'est vrai.
Passe toujours très bien avec les belles robes, les beaux costumes, les réceptions, les balles, ce genre de choses. Donc là, ça fonctionne très bien. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment pas, absolument pas un reproche ou une limite, mais c'est vrai qu'il y a des côtés soap de luxe dans The Crown, qui sont aussi très plaisants à suivre et qui, du coup, redonnent de la continuité aussi à la série. C'est-à-dire qu'on a les épisodes qui ont souvent une thématique, qui est parfois plus politique, parfois plus intime, mais qui sont un petit peu refermés sur eux-mêmes. Et finalement, ce qu'on a le plaisir à suivre au fil des épisodes et des saisons, c'est les rapports entre justement la reine et Philippe, entre la reine et sa sœur. Et ce qui est remarquable, là, c'est que les changements d'interprète ne nuisent pas du tout à cette dynamique. C'était quand même un sacré pari d'annoncer dès le départ, écoutez, on veut que vous suiviez la série, mais dans 2 ans, tout le monde change. Enfin, dans 2 ans, on change tout le casting, ou presque, et vous allez devoir vous réhabituer à une nouvelle distribution. Alors, on a à nouveau choisi pour la saison 3 vraiment des acteurs et des actrices de premier plan qui sont tous, vraiment, on perd pas au change, et c'est extraordinaire. Olivia Colman en reine est absolument sublime. On arrive à retrouver justement la dynamique qu'il pouvait y avoir entre les personnages, alors même qu'ils sont plus interprétés par les mêmes personnes.
Est-ce que c'est pas un bon moyen pour relancer littéralement la série, pour dire à ceux qui, après 2 saisons, se sont dit « Bon, voilà, ça y est, j'en ai fait le tour. » Non, revenez, attendez, c'est une nouvelle dynamique, il y a des nouveaux personnages. Enfin, en tout cas, il y a des nouveaux acteurs et actrices qui sont dans le rôle. Est-ce que c'est pas un bon moyen marketing de
relancer? Si, et puis aussi pour ceux qui pourraient commencer la série en cours de route. Du coup, on peut la commencer au début, finalement. Si on voit le premier épisode de la saison 3, on voit la première apparition à l'écran de la plupart des acteurs qu'on connaissait pas, et on les découvre, et donc c'est aussi tout à fait agréable. Donc c'est vrai que formellement, The Crown, c'est de ce point de vue-là un petit peu innovant, ces changements de casting, le fait qu'il se passe beaucoup de temps entre chaque épisode, ça rappelle un peu Rome de ce point de vue-là aussi, où on dévalait l'histoire à grandes enjambées, mais on s'en rendait moins compte. Dans Rome, c'est de l'histoire très ancienne, mais là c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à passer plusieurs mois, années, vraiment au cours d'une saison, on avance très vite en réalité, parce qu'on se focalise vraiment sur des moments, et là on n'hésite pas à faire un épisode, l'épisode se déroule sur quelques jours en fait, mais l'épisode d'après il aura lieu 6 mois, 1 an plus tard.
Ouais, ce sont des moments, il n'y a pas une volonté de retracer de façon historique les choses vraiment totalement chronologiques et jour après jour, mais il y a une volonté de s'arrêter sur les moments phares du règne d'Elisabeth, quoi, c'est vraiment ça. Alors on sait déjà que pour la saison suivante, on aura droit à Margaret Thatcher, qui sera incarnée par Gillian Anderson, la Gillian Anderson des X-Files, la Scully des X-Files, on a déjà vu 1 ou 2 photos. Bon, je vais te demander ton avis, je suis un peu obligé, tu es là, tu es face à nous. Elle est absolument... Enfin, de choisir déjà Gillian Anderson dans ce rôle-là, ça a l'air assez étonnant, non ?
Oui, c'est étonnant parce que c'est vrai que bon, tous les acteurs dont on a parlé, toutes les actrices dont on a parlé, ils ont une carrière d'avant, donc on peut les connaître dans d'autres rôles. Effectivement, on peut avoir vu Olivia Colman dans Broadchurch, par exemple, et puis là, on la voit dans The Crown, elle est très différente. Bon. Mais Olivia Colman, peut-être, on sait qu'elle joue énormément de choses différentes. On l'a déjà vu dans des registres tellement différents que bon, plus rien ne nous surprend. Gillian Anderson, de tous ces acteurs-là, c'est sans doute celle qui a quand même, qui est la plus marquée par un rôle, vraiment.
C'est vrai.
Même si elle a fait d'autres choses, et notamment en Angleterre, elle a tourné dans des séries anglaises ces derniers temps, dans
Absolument.
The Fall, par exemple,
dans The Fall, tout à fait.
Où elle est très bonne, etc. On sait qu'elle joue parfaitement en anglais, je veux dire, en langue anglaise, avec l'accent anglais. Donc
elle a fait de nombreuses pièces de théâtre aussi,
voilà,
en Angleterre.
Ça. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a il y a un petit peu plus un risque que en voyant Thatcher à l'écran, on ait envie de dire ah ben c'est Scully quoi. Voilà, ça c'est un peu inévitable. Après c'est aussi le plaisir. Moi je trouve quand on aime les séries, on aime bien retrouver les acteurs et les actrices d'un rôle à l'autre, parfois longtemps après. C'est aussi l'impression de revenir, de revoir une vieille connaissance.
Ouais, c'est vrai.
Enfin quand on a aimé, et Dieu sait qu'on a aimé Gillian Anderson dans X-Files pendant des années et jusqu'à récemment avec les saisons toutes les dernières là, c'est un plaisir, je trouve, de la revoir avec l'âge qui est le sien maintenant, avec l'expérience qui est la sienne maintenant, dans ce rôle-là, effectivement inattendu, mais alors inattendu pour elle, mais très attendu pour la série, parce que des premiers ministres, on en voit plein dans The Crown, et on commence par Churchill, donc qui est peut-être le plus important de tous, mais Thatcher, même pour nous Français, enfin ça reste une figure connue, enfin vraiment
voilà,
médiatique.
Exactement, moi j'aurais tendance à dire, j'attends avec impatience les la confrontation, les premières réunions, les premières entrevues entre eux, Elizabeth et Thatcher, incarnées par Coleman et Anderson. Quoi.
Il y a un effet d'attente. Là, il y a un effet d'attente, c'est clair.
Ça va être assez... Enfin, voilà, bon... Initialement, quand Peter Morgan a pitché la série à Netflix, il pensait ne faire que 3 saisons. Chacune d'entre elles correspondait à un des âges de la reine. Au final, 6 ont été envisagées, 2 par époque. Et puis là, maintenant, eh ben non, finalement, ça sera 5 saisons. Voilà, des raisons. Bon, j'ai plus d'histoire à raconter. Bon, voilà, hein, non, voilà, on va dire ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette, on va dire, de cette condensation, du fait qu'on condense l'histoire d'un seul coup, de ce qui était raconté un peu en, des époques qui étaient racontées en 2 saisons, va être la dernière époque, la dernière partie du règne d'Elisabeth va être racontée en 1.
Alors, faut voir comment, où ils vont choisir de s'arrêter exactement. Je pense qu'il y avait peut-être la conscience que ce qui intéressait quand même au départ, surtout Peter Morgan, et puis peut-être le public aussi, c'était de voir cette partie du règne de la reine qui maintenant est un peu éloignée de nous, donc le début. Voilà, les années 50, les années 60, on sait que c'est des périodes qui passent toujours très bien à l'écran aussi, il y a toute une image qui va avec, voilà. On poursuit jusque dans les années 70, c'est intéressant parce que c'est une grande période de bouleversement pour le Royaume-Uni. Voilà, peut-être qu'il s'est dit aussi que ce serait moins plaisant si c'était les années 90. Bon, ça me paraît important dans l'histoire de la monarchie britannique que le moment Diana soit traité avec tout le soin qu'il faut, parce que c'est ce que le film de Queen montrait bien. Ça a été quand même vraiment un séisme. Pour les Britanniques, de manière générale, ils l'ont ressenti de manière forte. Et puis, ça permettrait de montrer vraiment la reine dans une situation très particulière.
Oui.
Bon, voilà. Après, sans doute que le public qui suit la série aurait aimé qu'on en arrive jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la génération des petits-enfants qui font la une de l'actualité maintenant. Et d'autant qu'il y aurait, je pense, qu'il faut raconter en termes, là aussi, de conflits familiaux on a vu ce que les dernières nouvelles montrent bien, qu'il y a la monarchie britannique est jamais à court de d'actualité,
mais là on n'aurait pas toucher peut-être un peu trop justement la réalité. Ça ne devenait plus une série historique, mais ça devenait presque une série contemporaine. Quoi.
Peut-être trop sensible. Quand on voit la dernière crise, la provoquée par le prince Andrew et ses liens avec Jeffrey Epstein, le scandale que ça a causé à l'issue d'une prestation télévisée qui était vraiment calamiteuse, et souvent les Britanniques, la monarchie britannique a été très mal à l'aise avec la télé, etc. Bon, sûrement que ça déjà devait leur faire quelque chose qu'on raconte de manière aussi précise et documentée le début du règne, qu'on s'intéresse avec le même soin à des périodes plus récentes, peut-être que là, on franchissait une ligne rouge.
Donc, en tout cas, on attend la saison et les saisons suivantes avec impatience. Yannis, je rappelle ton livre « L'Angleterre en série », qui donc est aux éditions First,
oui,
et qui parle de The Crown, qui parle aussi d'autres séries britanniques comme Peaky Blinders.
Et Downton Abbey.
Donc, j'en suis sûr, une lecture absolument essentielle, puisque c'est un sujet que tu connais parfaitement et dont tu nous parles vraiment très très bien. Je te remercie beaucoup de nous avoir fait rentrer dans l'univers de The Crown. Et écoute, on va se précipiter sur ton livre.
Merci.
La prochaine saison de la série verra la présence de Margaret Thatcher sous les traits de Gillian Anderson, et oui, la Scully des X-Files. Initialement, quand Peter Morgan avait pitché la série à Netflix, il pensait ne faire que 3 saisons, chacune d'entre elles correspondant à un des âges de la reine. Au final, 6 ont été envisagées, 2 par époque. Mais donc, le 31 janvier 2019, en effet, Netflix a annoncé que la série serait plus courte d'une saison, que la 5e serait la dernière. Et c'est Imelda Staunton, que l'on connaît pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Shakespeare in Love, qui reprendra le rôle d'Elizabeth pour l'ultime saison. En parallèle de The Crown, la chaîne britannique ITV lance un peu comme une réponse à la série Victoria, avec Gina Coleman, l'ex-compagne du docteur, et maintenant souveraine âgée de 18 ans qui va se marier avec le prince Albert. Bah tiens, encore un lien avec Doctor Who. Bon, tout ça peut pas être un hasard. Alors moi, j'imagine que la reine possède une grande boîte bleue. La semaine prochaine, changement radical. On ira à la rencontre de Michael Weatherly, de David McCallum. Bref, de tous les interprètes de la série increvable NCIS.
Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Podcast Addict, Deezer et Apple.